Bonjour, tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor qui a pour but de t'inspirer et qui plante aussi des arbres avec tes oreilles. Dans cette mini-série de l'été avec Mathieu Tordeur, qu'on a pu découvrir plus longuement dans l'épisode 29, je te propose de découvrir d'autres aspects de Mathieu en format court, de quoi ponctuer ton été de quelques aventures à déguster bien frappées. Dans le dernier épisode, on s'est baladé sur un glacier au Tadjikistan. Aujourd'hui, je te propose d'aller un peu plus loin et de suivre le parcours de Mathieu Tordeur de la Chine au Pakistan sur la mythique Karakoram Highway. Pourquoi mythique ? Eh bien parce que c'est la plus haute route carrossable du monde, puisqu'elle culmine à près de 5000 mètres. À vélo, bonjour l'essoufflement. Quand on sait que le fameux K2, le deuxième sommet le plus haut du monde, fait partie de ce massif du Karakoram, on aura tout dit. Longue de 1300 km, la Karakoram Highway relie la ville de Kashgar en Chine à Islamabad au Pakistan. Vu l'aura de cette destination, plusieurs agences de voyage aventure permettent à présent à tout un chacun, qui a quand même une petite forme physique à la base, d'aller taquiner cet asphalte à la force des mollets. Avis aux amateurs. Mais ici, c'est en mode aventure et débrouille en solitaire que Mathieu a fait cette route en 5 semaines. Et pourquoi à vélo ? Eh bien, visiblement pour les mêmes raisons que les cyclistes des Amériques que j'ai interviewés dans les épisodes 22 et 23, c'est-à-dire respectivement Sophie Planck et Julien Defourny. Sur son blog, Mathieu écrit d'ailleurs très bien « J'aime voyager à vélo. C'est un moyen de locomotion humble qui fait écho à tous. Que l'on soit chinois, bolivien ou éthiopien, tout le monde a déjà utilisé un vélo. Chacun connaît l'effort qu'il représente et la liberté qu'il procure. Avec mon porte-bagages bardé de sacoches, ma monture intrigue et invite à l'échange. Mais au-delà de faciliter les rencontres, ce que je préfère avant tout avec le vélo, c'est la douce lenteur du déplacement. À 20 km/h, on a le temps de véritablement s'imprégner d'un paysage, du relief d'une montagne ou des odeurs d'une forêt, ce que ne permet pas totalement le voyage en voiture. Le départ de l'aventure de Mathieu, c'est donc Kashgar en Chine. Pendant 2000 ans, Kashgar a été le point de rencontre des différentes routes de la soie, parce que oui, il n'y en avait pas qu'une. Plusieurs itinéraires en portaient le nom. La ville se situe au carrefour du désert de... Oula ! Taklamakan, et oui, ça ne s'invente pas, à l'est, et des montagnes du Pamir à l'ouest. Tiens, revoilà le Pamir dont on parlait dans le mini-épisode précédent avec le Fenchenko. Alors, on va écouter Mathieu, bien sûr, mais je te propose avant de t'intéresser à la route de la soie. Je ne sais pas toi, mais moi, ce nom en évoque d'autres. Caravanserai, Islamabad, désert de Gobi, Marco Polo, Samarcande. Il plane sur ces noms un sacré parfum d'aventure. Bref, ça fait pédaler ferme, pas mes mollets, comme Mathieu, mais plutôt mon imagination. Et si tu écoutes ce podcast, je suppose que les grandes aventures, ça te parle à toi aussi. Alors, plongeons une petite minute dans l'histoire pour en savoir un peu plus sur la route de la soie, sur laquelle transitaient marchands, soldats, pèlerins et espions d'Oasis en caravansérail. Ça ressemble déjà à un bon roman d'aventure. À avoir le nombre de résultats sur Route de la Soie, Aventure, ce nom ne fascine pas que moi. Voyagiste, aventurier en herbe ou confirmé s'y presse toujours à l'heure actuelle. Et à voir les images aussi rapportées par Mathieu sur son site, on comprend pourquoi. À propos de recherche sur le web, je ne sais pas ce que tu utilises, mais connais-tu les moteurs de recherche Ecosia ou encore Lilo ? Bah oui, tu sais, les moteurs de recherche alternatifs qui, grâce à tes recherches, plantent des arbres, dans le cas du moteur berlinois Ecosia, ou qui financent d'autres projets solidaires pour le moteur français Lilo. Si tu ne connais pas, il faut absolument que tu découvres ça. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Il te suffit d'installer ça sur ton ordi en moteur de recherche par défaut et c'est parti. C'est plutôt simple, non ? Dans le cas de Lilo, ils soutiennent entre autres Longitude 181, l'assaut du formidable François Sarano, grand passionné de l'océan qui a fait partie de l'équipe Cousteau. Si tu ne le connais pas, je l'interview dans l'épisode 9 et c'est à mon sens une des plus belles interviews du podcast. Si tu as envie de remplir une heure de tes vacances de bleu océan, t'émerveiller en nageant avec les baleines à bosse, les cachalots ou encore le grand requin blanc, ajoute cet épisode à ta liste de lecture. Et n'oublie pas, Ecosia ou Lilo, faire du bien à la planète n'a jamais été aussi simple. En plus, on n'y collecte pas tes données. Les deux moteurs existent aussi en version application pour smartphone. Alors tout d'abord, il ne faudrait pas dire la route de la soie, mais les routes de la soie, il n'y en a pas qu'une. Bon, elle relie toute la Chine aux portes de l'Europe, en Turquie, mais il y a plusieurs parcours. Ensuite, il n'aurait peut-être pas fallu l'appeler la route de la soie, car même si celle-ci transite bien par ces routes, d'autres produits très demandés s'échangent sur cette route qui est incontestablement avant tout commerciale. Les premières traces de la route de la soie datent de moins de 1000 et est progressivement abandonnée au 15e siècle. Wikipédia nous explique le pourquoi. L'instabilité des guerres turco-byzantines, puis la chute de Constantinople, poussant en effet les Occidentaux à chercher une nouvelle route maritime vers les Indes à travers l'Atlantique. L'abandon de la route de la soie correspond ainsi au début de la période des grandes découvertes, durant laquelle les techniques de transport maritime deviennent de plus en plus performantes. Et les grandes découvertes, ça devait être des sacrées aventures également. Donc, quel est le lien entre la route de la soie et Christophe Colomb ? Eh bien, c'est ceci. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai appris quelque chose. Amusant aussi de savoir qu'une invention chinoise transitant grâce à la très terrestre route de la soie a accentué son déclin, puisque la boussole d'origine chinoise a boosté l'essor de la navigation. Alors, pour le nom de la route de la soie, elle ne s'appelait pas du tout ainsi avant le 19e siècle, date à laquelle elle avait bien disparu. C'est un historien qui l'a baptisée ainsi. Pourquoi route de la soie ? Eh bien, parce que les Chinois étaient les seuls détenteurs du secret de la fabrication de la soie pendant plusieurs siècles, et cette marchandise était donc très prisée en Grèce et à Rome. Mais sur cette route transitaient donc également des tas de marchandises comme le musc, le santal,
les pierres précieuses, porcelaine, étoffe de laine, de lin, les landes, ivoire, lac, épices, verre, corail, métaux précieux et armes !
Comme dans tout commerce qui se respecte ou pas. Bref, la route de la soie aurait tout aussi bien pu s'appeler la route du musc. Et si tu ne sais pas exactement d'où vient le musc, Wikipédia te répondra que le musc est une matière première odorante animale sécrétée par la glande prépuciale abdominale des chevrotins porte-musc mâles d'Asie, origine Sibérie, Chine, Himalaya. Si tu te demandes à présent, mais qu'est-ce qu'une glande prépuciale ? Eh bien, ce sont les glandes productrices de phéromones et situées à proximité des organes génitaux de certains mammifères. Pour le fameux chevrotin porte-musc, le musc est sécrété lors du rut. Et si tu ne sais pas ce qu'est le rut, j'abandonne. Tu vas voir Wikipédia tout seul. Mais bref, quand on sait que le musc est utilisé en parfumerie depuis des siècles, ça donne à réfléchir. En tout cas, ça a eu un succès fou et c'est pas fini.
Oh yeah!
Car oui, c'est toujours utilisé. Il y en a qui vont aller lire la composition de leur parfum en rentrant chez eux ce soir. Et avoir de sacrées surprises en apprenant que ce qu'ils s'envoient sur la nuque depuis des années, eh bien, voilà. Pas de panique, ils sont de nos jours de synthèse. Mais comme quoi, nos ancêtres, quand ils avaient décidé de sentir le mal, ils n'y allaient pas par quatre chemins. Bref, à propos de chemin, appeler la route de la soie, route de la soie, c'est quand même plus élégant que la route du musc, donc on ne change rien. Et sur le tracé, on trouve des villes comme Boukhara et Samarcande, une des plus anciennes villes d'Asie centrale. Ça aussi, ce sont des noms qui font vraiment rêver. Elles ont vu passer des caravanes de 50 à 1000 chameaux, ainsi que le père et l'oncle de Marco Polo. Marco, lui, il a utilisé une des routes de la soie, mais pas celle qui passait par Samarcande, ville qu'il a pourtant fait rêver. Par contre, il était rare que les voyageurs fassent le trajet de A à Z. On faisait certaines étapes, mais Marco et ses deux oncles, ils ont tout fait. De vrais aventuriers, donc. D'après ce que Wiki nous raconte, à l'âge de 17 ans, Marco Polo part avec son père, Niccolo, et son oncle Matteo pour l'Asie, où il se met avec eux au service de Kubilai Khan, l'empereur mongol, rien que ça. Après avoir exercé diverses missions officielles durant une vingtaine d'années, il entreprend son voyage de retour. C'est donc après un périple de 24 ans qu'il est de retour en Italie. Ça, c'est pas une petite pause carrière d'un an. Est-ce que c'est lui qui est revenu avec la recette des spaghettis en Italie, comme le veut la rumeur ? Rien n'est moins sûr. Mais il est peut-être revenu avec du musc pour sa maman, histoire de se faire pardonner d'être parti si longtemps. Qui sait ? Les récits que Marco Polo a fait à son retour ont influencé, entre autres, Christophe Colomb. Voilà, du coup, je trouve que le gaillard a toute sa place dans un podcast qui parle d'aventure outdoor, parce qu'il avait peut-être une petite boussole pour faire tous ses trajets, mais il n'avait certainement pas de GPS, de points météo en ligne, de portions lyophilisées, ni de tente quechua. Et les cartographies à l'époque, il n'y a pas à dire, c'est ni Maps.me, ni Google Earth. Marco Polo dictera ses aventures à son compagnon de cellule. Il se retrouve en tôle pour 2 ans pour avoir participé à une guerre entre Venise et Gênes. Bien fait, c'est pas beau la guerre. Ce livre, c'est le livre des merveilles ou le devisement du monde. Et c'est un best-seller à l'époque, comme quoi on aimait déjà les récits d'aventure. Et même s'il se laisse un chouïa emporter par son imagination avec des chats à visage humain et des licornes, il fera rêver avec ses récits entre autres Vasco de Gama et Christophe Colomb. Sur ce, on va écouter un aventurier de notre temps qui est mieux équipé, qui part moins longtemps, heureusement, mais ça n'en diminue pas son mérite pour autant puisqu'il épice volontiers ses routes de solitude et d'autonomie. Et chance pour nous, il ramène toujours de ses expés quelque chose qui n'existait pas non plus à l'époque, des photos et des vidéos, pour notre plus grand plaisir, même si on n'y voit pas de licorne. On écoute Mathieu Tordeur qui nous parle de son parcours à vélo sur ce tronçon de la route de la soie, la Karakoram Highway. Alors, j'aimerais bien parler aussi un peu avec toi de la Karakoram Highway, Chine-Pakistan à vélo. C'était aussi une de tes expés. Comme j'adore l'Asie, j'adorerais que tu me parles de ces paysages, de cette expérience solitaire, celle-là, quoi que tu as croisé beaucoup
de
monde.
Oui, alors moi, je suis parti seul, effectivement, sur cette route assez mythique. Hein.
T'avais quel âge?
Je ne sais plus. C'était il y a 4 ans, je pense, 4-5 ans. Je devais avoir 25 ans, 26 ans. Mais je suis parti donc seul sur cette route qui est emblématique. C'est la plus haute route carrossable du monde. C'est-à-dire que c'est la plus haute route goudronnée du monde. Donc elle relie le Kashgar, le Xinjiang chinois de Kashgar jusqu'à Abbottabad au Pakistan. Et elle passe par un poste frontière à plus de 5000 mètres d'altitude. Moi, je suis parti seul pour jamais l'être. J'aime bien partir seul avec un appareil photo. Comme ça, ça me permet de rencontrer des gens. Et quand tu pars seul, bah, tu dis oui un petit peu à tout. Et ça facilite la rencontre, en fait, d'être seul. À vélo, parce que j'aime bien ça et que c'était un moyen pour moi d'avancer, de me fondre dans le paysage. Et dans cette géographie assez incroyable, hein, parce que tu es vraiment aux confins des montagnes du Karakoram. C'est vraiment le bout de l'Himalaya. Et t'as des glaciers immenses, des pics vertigineux. Donc c'est un endroit, moi, qui m'intéressait, qui était assez reculé, dans lequel assez peu de monde, peu d'occidentaux vont. Et c'était fabuleux de parcourir cette route-là, de voir la différence culturelle aussi entre la Chine et le Pakistan, où ça n'a rien à voir. Où en Chine, c'était très difficile de communiquer, parce que moi, je ne parle pas un mot de chinois. Et puis, dans cette région de la Chine, l'anglais n'est pas du tout pratiqué non plus, donc c'était compliqué d'échanger. Et au Pakistan, au contraire, là, ça parlait anglais, et ils étaient très chaleureux, très accueillants. Donc j'ai vécu quelque chose d'assez fort du côté pakistanais. Et les paysages sont merveilleux, quoi. C'est des hauts sommets, c'est des torrents d'eau, c'est très vert, il y a plein de vergers. Et c'est magnifique, quoi. C'est une très belle région du monde.
Et oui, en Chine, j'étais étonnée. On laisse crapahuter comme ça, parce que nous, quand on avait été en Chine, mais on devait dire à chaque soir où on logeait, enfin, c'était quelque chose d'incroyable en 2019. Ouais. C'était vraiment, il fallait qu'on soit traquable de par quel train on allait aller d'où à où. Enfin, et ça, je me dis, toi, avec ton petit vélo, ça a été pas de problème?
Non, ça a été compliqué, hein, surtout dans cette région de la Chine où c'est tout à l'ouest de la Chine, ça s'appelle le Xinjiang, et c'est là qu'il y a beaucoup de Ouïghours. Et on sait ce qui se passe avec les Ouïghours aujourd'hui. Les Chinois sont complètement en train de contrôler tous leurs faits et gestes, et plus que ça, il y a des camps d'internement, il y a de la torture, donc c'est vraiment un endroit très particulier en Chine. Moi, quand j'y suis allé, c'était encore praticable, mais c'est vrai qu'en vélo, j'étais un petit peu dans un flou juridique, parce que normalement, tu dois te balader avec un guide dans ce genre de région, avec un chauffeur. Moi, j'étais à vélo et indépendant, donc
ils
savaient pas trop quoi faire de moi.
Ils
savaient pas trop quoi faire de moi, mais moi, j'y suis allé un petit peu au culot en me disant, on verra, et puis si je me fais arrêter, ce sera la vie et j'assumerai les conséquences et on verra. Et finalement, non, ils m'ont laissé passer. Mais c'est vrai que c'était compliqué, j'avais pas le droit de dormir où je voulais, et à chaque fois que je croisais un checkpoint, ça prenait des heures, quoi. Donc non, c'était pas simple.
En Chine, en effet, Mathieu raconte sur son blog plusieurs anecdotes, dont le fait que pour cette expé-ci, il n'a pas pu dormir en yourte comme l'année précédente, la Chine ayant resserré encore un peu plus la vis dans cette région. À propos de la vie en yourte en Asie centrale, j'ai un chouette épisode avec Briek Jaffres qui sortira en automne et on en parle. Mathieu raconte aussi un contrôle de police, on ne lui permettait de dormir nulle part finalement ce soir-là, sauf à 90, voire carrément 90 km de là, ce qui est super pratique, donc interdit de loger chez l'habitant, interdit de loger même au poste, et donc il a dû aller se cacher pour passer une nuit qui a dû être absolument géniale, ambiance.
Man, this is great. I'm loving this.
Au Pakistan, il reçoit en général un accueil super chaleureux, ce qui ne l'empêchera pas de se faire suivre par la police sur une centaine de kilomètres après Gilgit, pardon. Mais cette fois, pour sa propre sécurité, la région n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler sereine. Un peu plus loin, près de Chilas, là, ce sont des touristes qui se sont déjà fait égorger par des terroristes quelques années auparavant. Donc, il a pédalé aussi un peu plus vite. pays de contraste donc, où Mathieu rencontre sur la route des zones où il ne fait pas bon être un étranger et d'autres bien plus nombreuses, où il est accueilli à bras ouverts. Sa conclusion, c'est que la Karakoram Highway, que les Chinois appellent aussi la route de l'amitié, porte bien son nom. Les Pakistanais m'ont réservé un accueil hors du commun. J'ai fait l'expérience quotidienne de leur incroyable gentillesse et générosité. S'il est vrai que la région autour de Shilas nécessite de prendre quelques précautions, le reste du nord du Pakistan n'est pas aussi dangereux qu'on le croit. C'est même bien le contraire, et je n'ai qu'une seule envie, y retourner. Le site web de Mathieu, dont je te mets le lien direct vers cette aventure Karakoram dans les notes de l'épisode, vaut le détour. C'est très bien écrit, et quand on voit les photos et vidéos de ces paysages somptueux, on comprend qu'il a envie d'y retourner. Dans le prochain mini-épisode, je te propose de découvrir un marathon vraiment pas comme les autres, le marathon des sables. Alors, avec un nom pareil, on se doute qu'il doit y faire plutôt chaud, et marathon, c'est clairement un euphémisme, puisqu'il s'agit de 6 jours et environ 250 km en plein désert. Bref, c'est un peu comme la route de la soie, on devrait dire les marathons des sables, pas le. Et oui, Mathieu s'y est collé aussi, il est partout. Alors, à bientôt.